Beaucoup trop de noyades dans la région. On parle d'un homme qui est mort dans le lac du Poisson Blanc en Outaouais. Victime qui était passager à bord d'une chaloupe, qui était éjectée, n'avait pas sa ceinture. Le conducteur qui était arrêté avec conduite, avec des conditions, capacité affaiblie. Alors évidemment, des histoires comme ça, on en a eu beaucoup cet été. Et là, si on regarde qu'actuellement, là, depuis jeudi, aujourd'hui, on parle de 68 noyades non officielles en 2020. Comparativement à la même date l'année passée, on avait 48 noyades, dont beaucoup trop, malheureusement. Et pour nous en parler, évidemment, on l'a eu déjà en entrevue, toujours intéressant d'avoir avec nous le directeur général de la Société de sauvetage. On rejoint M. Reynald Hawkins. Bon matin, M. Hawkins.
Bon matin à vous.
On s'est parlé il n'y a pas longtemps, on avait parlé justement des noyades où il y en avait beaucoup, et on a parlé de cas dans les piscines. Mais là, on remarque, probablement parce qu'il s'est vendu beaucoup trop de... beaucoup d'embarcations avec ce qui se passe et les gens voyagent moins. Mais c'est surtout en bateau qu'on retrouve beaucoup de noyades en ce moment.
Oui, absolument. Particulièrement dans les rivières et dans les lacs, donc ce qu'on appelle des plans d'eau ouverts, c'est là où la majorité de nos noyades ont été enregistrées au Québec. Alors, donc, il faut revenir à la charge.
Mais là... Écoutez, moi-même, j'ai un bateau, là, et j'en fais beaucoup. Et puis, j'aime ça, je suis sur la rivière des Outaouais. On connaît la rivière des Outaouais, on sait comment c'est. Mais quand tu dis qu'une journée où l'eau est calme le matin, il y a tellement de bateaux sur l'eau que des vagues à pu finir, que c'est même plus agréable à en faire. Il faut attendre en fin de journée. Et malheureusement, c'est pas tout le monde qui sait exactement où ce qui s'en va.
Non, c'est une des prétentions qu'on a, c'est que le fait que l'industrie des sports de pagaie, hein, les planches de pagaie, les kayaks, les canots, plus les motomarines, les pontons, les petites embarcations motorisées, fait en sorte que ça a été très populaire au niveau des ventes. Donc, on a des nouveaux apprenants, des nouveaux pratiquants. Est-ce que tout le monde connaît les règles sur les abordages? Est-ce que tout le monde connaît justement qui a priorité? Comment on doit naviguer?
À la question, votre réponse, je vais vous dire non et je vais vous dire pourquoi. On passe l'examen pour avoir son permis de navigation par Internet. Je connais personnellement 5 personnes qui ont leur permis et qui n'ont jamais passé le test parce qu'ils l'ont fait faire par d'autres.
Oui, je suis d'accord avec vous. C'est la contrainte qu'on avait déjà manifestée dès l'arrivée de cette façon de faire-là plutôt que le présentiel. Malgré que maintenant, pour obtenir cette fameuse carte-là, vous devez faire les modules en amont. Fait que vous n'avez pour à peu près 4 à 5 heures. Ouais. De capsules et d'informations avant d'avoir accès à l'examen, ce qui devient peut-être un petit peu plus complexe, j'en conviens. Il reste que, vous savez, depuis que la carte de conducteur d'embarcation de plaisance est arrivée au Canada, on est capable d'associer une diminution du nombre de noyades. À tout le moins, moi, je suis capable de le confirmer pour le Québec, mais on me dit que c'est la même chose pour le Canada. Mais il reste que cette année, le fait que même si on est allé chercher cette carte-là, et là, soit dit en passant, selon bien des patrouilles nautiques, c'est pas vrai que tout le monde l'a eu cette année, cette carte de conducteur d'embarcation de plaisance-là, parce qu'on avait hâte de naviguer vu qu'on venait de faire l'acquisition de cette embarcation-là. Et là, ces gens-là se retrouvent avec des billets d'infraction qui coûtent vraiment plus cher que le cours ou l'examen qu'ils auraient pu obtenir. Mais il reste qu'on a besoin de pratique sur l'eau. Et là, le fait qu'il y a plus de monde sur l'eau fait en sorte que ça devient définitivement plus complexe et l'expérience n'est peut-être pas toujours au rendez-vous, surtout lorsqu'on accroche les fonds, lorsqu'on accroche les d'autres embarcations. Et vous le savez mieux que moi, là, c'est souvent ce genre d'histoire qu'on a entendu cet été-là.
Ce que je trouve déplorable également au niveau que ce soit l'OPP, la police provinciale ontarienne, la Sûreté du Québec, ou que ce soit la garde côtière, ou quel que soit le corps policier, j'en ai vu souvent arrêter, même moi, on m'a intercepté, pas parce que j'allais vite, juste pour voir si j'avais l'équipement à bord. Je comprends, là, c'est important, là. Mais pendant ce temps-là, tu as ce qu'ils appellent les speedboats, les bateaux cigarettes, qui passent en débile à côté des canots, des petites chaloupes, des bateaux de pêche. Alors, évidemment, qui se font brasser comme ça se peut pas, qui est à virer à l'envers sur la rivière. Il me semble qu'ils devraient mettre plus d'emphase, surtout que j'apprenais qu'il n'y a pas de limite de vitesse sur les plans d'eau.
Ben voilà, c'est une des raisons qui fait que je préconise que la veste de flottaison devrait être obligatoire pour tout le monde à bord de l'embarcation. Ainsi, les policiers, les patrouilles nautiques seraient peut-être plus portés à aller voir ce genre de comportement-là auquel fait allusion que plutôt d'aller faire ce que j'appelle la vérification de courtoisie afin de s'assurer que vous ayez tous les dispositifs qui sont prévus dans le règlement. Parce que ce serait plus facilement identifiable. Hein? À simple vue, là, je serais capable de dire, OK, tout le monde porte leur VFI. Ah, mais regarde ici, il y a un comportement qui n'est peut-être pas nécessairement sécuritaire. Donc, je vais aller intervenir là plutôt que d'aborder des gens qui auraient de toute façon leur équipement. Et oui, vous avez raison. Par rapport à la vitesse sur les cours d'eau, il faut que la municipalité ait fait une demande de restriction ce qu'on appelle aux petits bâtiments, et afin de pouvoir venir réglementer la vitesse sur les cours d'eau. Mmh. Et ça, c'est pas une mince tâche là, pour la municipalité de s'adresser au fédéral, de faire des sondages, des référendums pour s'assurer que tout le monde est d'accord avec cette approche-là. C'est souvent l'implication de plusieurs heures de bénévoles, là, d'associations de protection d'environnement des lacs là, qui s'impliquent là, justement dans ce genre de situation-là. Et c'est loin d'être une mince tâche, là.
Monsieur Hawkins, vous êtes directeur général de la Société de sauvetage. Vous voyez, vous entendez, vous voyez les rapports des accidents qui se passent sur l'eau. Deux bateaux, deux embarcations qui se percutent. Des gens qui sont éjectés, des bateaux qui prennent en feu. Avant, c'était il y avait beaucoup moins de personnes sur l'eau. Et depuis qu'on développe ça, ça devient de plus en plus dangereux. Alors, je pense que de faire de faire des sondages puis des études, il semble que c'est pas trop compliqué à comprendre que sur l'eau et des gros plans d'eau actuellement, là, il y a des dangers publics.
Oui, vous avez raison. C'est une des façons que nous, on préconise de pouvoir venir établir, dans le fond, ces règles de base-là dans la révision du règlement qui régit la sécurité là, sur les différents cours d'eau avec le fédéral. Puis nous, notre action première, là, je dois vous le dire, là, on veut travailler pour que le port de la veste de flottaison soit obligatoire. Juste ça, là, ferait en sorte qu'on aurait des anecdotes encore à raconter ce matin, plus que des drames que j'ai vécu dans votre région, là, et un peu partout au Québec. Parce que si le port de la veste de flottaison était obligatoire pour toutes les embarcations, à tout le moins celles qui sont plus facilement chavirables et inférieures à 6 mètres, là, je vous dirais que ma moyenne de décès liés à l'eau au Québec ne serait pas de 80, mais serait plutôt de 60. On viendrait de sauver 20 vies par année au Québec. Là. Et vous savez, c'est quoi la principale raison pourquoi les gens ne la portent pas, cette veste de flottaison-là?
Parce qu'ils trouvent que c'est trop chaud?
Non, c'est parce qu'ils n'ont pas l'intention de se retrouver par-dessus bord.
Oui, bien, effectivement, ça, c'est sûr. Lorsqu'on embarque dans son véhicule, là, on pourrait ne pas mettre sa ceinture de sécurité parce qu'on n'a pas l'intention d'avoir un accident ou avoir un frontal.
Alors, donc, vous avez compris un peu le sens de ma remarque. Là. Mm-hmm. L'idée, c'est que c'est ça que ça va faire la différence. Si je l'ai, cet accident-là automobile, je sais que c'est ma ceinture qui va me maintenir à l'intérieur. C'est un peu la même chose avec la veste de flottaison. C'est que si vous vous retrouvez par-dessus bord, c'est ce qui va vous amener à rester justement à la surface de l'eau. Et j'ai encore vu l'actualité dans votre région. Là, on l'a fait allusion, là, pas plus tard qu'hier, là, des jeunes qui ont été sauvés parce qu'ils avaient tombé par-dessus bord leur moto marine dans une des rapides et parce qu'ils portaient leur veste de flottaison. C'est ce qui a fait la différence. Ils ont pu venir raconter aux médias leur anecdote, justement, plutôt qu'un drame à faire vivre à leurs proches.
Absolument. Si on regarde là, dans toute la province, là, okay, l'Outaouais se situe à quel endroit dans le pourcentage des accidents?
Si j'y vais en chiffre absolu, je peux vous dire que la Montérégie, c'est là où il y a le plus de noyades ou de décès liés à l'eau depuis le début de l'année. La région administrative de l'Outaouais. Et là, je peux comprendre que des fois, c'est un peu difficile parce que vous avez une partie de la région qui touche aussi aux Laurentides. Là, je pense entre autres au réservoir du Basket-Anne, là. Ouais. Mais il reste que l'Outaouais arrive en deuxième lieu avec 8 décès comme la capitale nationale. Alors donc, et c'est particulier cette année, je dois vous le dire, là, vous avez fait souvent la manchette là, dans les médias face aux situations de décès liés à l'eau, particulièrement dans les rivières et dans les réservoirs.
Très triste bilan. Juste savoir, selon vos connaissances, si on est en bateau puis on voit quelqu'un qui fait de la conduite dangereuse, est-ce qu'on peut faire la même chose que ce qu'on peut voir sur la route? Donc, prendre le numéro du bateau, souvent parce qu'il est quand même identifié, et de déclarer en faisant le 911 qu'il y a quelqu'un qui fait de la conduite dangereuse sur l'eau. Est-ce qu'on peut le faire?
Oui, vous avez le droit de rapporter ce genre de situation-là. Souvent, la Sûreté du Québec, sachant qu'il y a effectivement ce genre de comportement-là ou de problème-là, va s'assurer d'envoyer sa patrouille nautique peut-être sur une base plus régulière pour pouvoir justement aller intercepter ce type de comportement-là et de voir à une possible accusation pour conduite dangereuse qui peut être passible du même code criminel qu'on a au niveau du fédéral comme on a sur la route, là.
Monsieur Hawkins, c'est la deuxième fois que vous êtes en entrevue. Je trouve ça toujours très intéressant parce qu'on n'a même pas touché au volet de l'alcool qui est encore plus réglementé côté ontarien que côté du Québec. Et je suis sûr qu'on pourrait s'y arrêter à un moment donné. Et de toute façon, n'importe quand vous avez des conseils à donner, gênez-vous pas pour nous appeler le 104.7. Je serais content de vous avoir en entrevue aussi souvent pendant spécialement la période estivale. Directeur général de la Société de sauvetage, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Monsieur Renal Hawkins. Passez une belle journée.